Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Dans sa convalescence, les indicateurs infectieux du pape François s'améliorent légèrement. Depuis la maison Sainte-Marthe, François suit et participe à la vie de l'Église. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la salle des presses du Saint-Siège vendredi. Le Saint-Père, qui a délivré vendredi un message à un groupe de Slovaques à l'occasion de leur pèlerinage national jubilaire. Avec sa résurrection, Jésus nous apprend à nous débarrasser de tout esprit de vengeance. C'est ce qui est ressorti vendredi de la troisième prédication des carêmes du Père Roberto Pasolini, prédicateur de la maison pontificale. Vous aurez les détails de tout ceci dans l'actualité de l'Église, qui nous conduira aussi au Burundi, au Soudan du Sud. L'actualité sociale et politique en Afrique nous conduira notamment au Soudan du Sud, au Nigeria, au Sénégal. Le Niger est en train de prendre une nouvelle orientation politique et militaire. Vous écouterez à ce sujet Issoufou Yaya, historien et enseignant des sciences politiques à l'Université de Niamey. Et nous conclurons cette édition par un tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
La salle des presses du Saint-Siège a fait le point sur la santé du Saint-Père vendredi. Le pape, qui est en convalescence depuis le 23 mars dans sa résidence Sainte-Marthe au Vatican. Des nouvelles améliorations ont été enregistrées sur les plans respiratoires et moteurs, ainsi que sur l'usage de la voix. L'utilisation de l'oxygène s'est poursuivie aussi avec une réduction. Dimanche prochain, 6 avril, la prière de l'Angelus pourrait se dérouler différemment par rapport aux semaines précédentes. Alexandra Sirgan nous en dit plus.
On remarque une amélioration autant sur le plan respiratoire et moteur que sur l'usage de la voix. Les analyses de sang effectuées ces derniers jours montrent une légère amélioration des marqueurs inflammatoires. Pour ce qui est de la respiration, l'oxygénation a également été légèrement réduite, avec en journée une administration ordinaire et la nuit, si nécessaire, une oxygénation à haut débit à l'aide de canules nasales. Les différentes thérapies se poursuivent et les indicateurs sont bons, mais il est encore tôt pour se prononcer sur la participation du Saint-Père au rite de la Semaine Sainte. En revanche, le texte de l'Angélus transmis depuis le 16 février sous format écrit pourrait avoir lieu sous un format différent ce dimanche. Un autre point presse aura lieu demain à ce sujet. En attendant, François poursuit ses activités. Même s'il ne reçoit pas de visite particulière, il continue de travailler. Le Saint-Père a envoyé un message aux fidèles slovaques, lu lors d'une messe célébrée en la basilique Saint-Pierre à l'occasion de leur pèlerinage jubilaire. Il sera également l'auteur de l'homélie pour la messe célébrée dimanche à l'occasion du jubilé des malades. Une homélie qui sera lue par Monseigneur Fisichella, pro-préfet du dicastère pour l'évangélisation. Enfin, la salle de presse informe que le pape a suivi à la télé la messe célébrée mercredi à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Jean-Paul II, ainsi que la prédication de carême de vendredi matin.
Merci Alexandra. L'année jubilaire en cours nous appelle à devenir des pèlerins d'espérance tout au long de notre vie. Des mots du pape François aux pèlerins slovaques dans son message à l'occasion de leur pèlerinage jubilaire national vendredi. De nombreux Slovaques ont fait les déplacements de Rome, accompagnés des évêques et prêtres, ainsi que du président de la République, Peter Pellegrini. Le Saint-Père, qui a apprécié leur foi, soulignant que leur itinéraire s'inscrit dans la riche tradition chrétienne de leur terre, la Slovaquie, tradition fertilisée par le témoignage des saints Cyril et Méthode et des tant d'autres saintes et saints qui l'ont irrigué de l'évangile du Christ pendant plus de 1000 ans. À l'exemple de Marie, Notre-Dame des Sept Douleurs, patronne de leur pays, François les a appelés à savoir dire un oui humble et courageux, un oui simple et sincère qui peut devenir un instrument entre les mains de Dieu pour réaliser quelque chose de grand. Savoir se relever, la joie de la résurrection, était le thème de la troisième prédication des carêmes tenue vendredi par les prédicateurs de la maison pontificale, les pères capucins Roberto Pasolini, devant les membres de la curie romaine. Le pape François a suivi donc la prédication par liaison vidéo. Les comptes rendus avec Christian Lossambé.
L'événement de la vie de Jésus qui inspire le plus notre cheminement en tant que disciple est la résurrection, a noté le père Pasolini. En contemplant cet événement christologique très décisif et mystérieux, nous pouvons puiser la lumière nécessaire pour orienter de manière juste nos pas, sans nourrir des attentes fausses et trop idéales au regard de ce que la volonté de Dieu nous appelle à vivre. Regarder la résurrection signifie ne pas se laisser dominer par la peur de la souffrance ou de la mort, mais maintenir le regard fixé sur le but vers lequel nous guide l'amour de Dieu. Ceci demande un précieux renoncement, abandonner la conviction selon laquelle il est impossible de se relever des échecs et des défaites avec un cœur confiant, mais être prêt à recommencer et à s'ouvrir aux autres, surtout à celui qui nous a blessés, mais n'a pas rompu le lien qui nous unit. Jésus est le premier qui nous l'a démontré. Après sa résurrection, il n'a pas pris vengeance de ceux qui l'ont fait souffrir. Il s'est plutôt manifesté à ses amis avec grande parcimonie et une joie modeste. Nous aussi, pour nous relever de manière évangélique des inévitables traumatismes auxquels nous exposent les relations, nous devons vérifier combien y a-t-il de liberté et de gratuité dans les paroles et les gestes que nous offrons aux autres. Autrement, nous resterons dans les plaintes sans aucune joie. Les évangiles nous montrent aussi que Jésus a fait de sa résurrection une opportunité de réconciliation avec qui l'avait trahi, de donner la vraie paix, de libérer des scrupules et permettre une joie authentique, comme Thomas l'a expérimenté. Ainsi, la joie partagée peut rallumer cette braise d'amour que la douleur n'a pu éteindre. Sans rancœur et ressentiment, on peut reprendre le chemin de la rencontre avec l'autre, dont la confiance qu'il y a encore beaucoup à vivre et à découvrir, a conclu le père Pasolini.
Merci Christian. Les conflits se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'armée congolaise affronte une coalition des rebelles armés dominée par les mouvements M23, mouvement soutenu par les Rwanda. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées dans la région pour trouver parfois refuge dans les pays voisins comme le Burundi. Sur le terrain, l'accueil des réfugiés reste complexe à gérer et les besoins sont énormes, comme nous l'explique l'abbé Chubwa Bernard. Il est le secrétaire général de Caritas Burundi.
Depuis le 15 février 2025, avec la prise de la ville de Bukavu par les rebelles du M23, il y a eu un grand afflux vraiment de réfugiés congolais qui sont arrivés sur la frontière que nous avons avec la République démocratique du Congo, province de Cibitoke. Des femmes enceintes, il y a beaucoup d'enfants en afflux visible de réfugiés démunis. Il y a ceux qui arrivaient même avec des plaies, on a pu les soigner. Il manque le matériel de couchage et les ustensiles de cuisine. Ils ont besoin aussi des abris dignes. L'eau n'est pas en quantité suffisante, donc il y a manque de nourriture, mais aussi il y a un autre grand besoin. Les médicaments ne sont pas en quantité suffisante, alors qu'il y avait ceux qui avaient attrapé les maladies diarrhéiques et la rougeole.
L'abbé Chubwa Bernard, secrétaire général de Caritas Burundi, des propos recueillis par Augustine Asta. Le diocèse de Torit au Soudan du Sud, préoccupé par l'attaque contre la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Loa dans les comtés des Magui. L'agression est décrite comme préoccupante et créant un climat de peur et d'anxiété. Elle a été menée par des hommes armés et a causé mort d'hommes, laissant d'autres blessés. L'incident qui a eu lieu dans des locaux de la paroisse survient dans un contexte de tensions politiques accrues au Soudan du Sud. Dans une déclaration, Mgr Emmanuel Bernardino Lowi Napeta, évêque des Torit, a appelé à une enquête impartiale sur l'incident. Mgr Napeta a souligné que le diocèse des Torit s'engage en faveur de la paix et de la justice pour tous et continuera à donner la priorité à son service à l'humanité et à la fin de toutes les formes de violence. Restons au Soudan du Sud pour ouvrir la page consacrée à l'actualité sociale et politique en Afrique. Au moins 30 personnes ont été tuées dans des heurts qui se sont produits dans une localité du nord de ce pays, brièvement envahie par un groupe de jeunes gens armés à la suite d'un vol de bétail. C'est ce qu'a indiqué jeudi un responsable local. Des hommes armés ont tué mercredi au moins 40 personnes dans les centres du Nigeria. Dernière violence en date dans cette région marquée par des affrontements meurtriers intercommunautaires récurrents, ont indiqué vendredi les gouvernements de l'État du Plateau et la Croix-Rouge. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a appelé jeudi ses compatriotes à faire preuve de résilience et de solidarité face aux défis de l'État préoccupant des finances publiques qui impose, selon lui, au peuple sénégalais de compter d'abord sur lui-même. Le chef de l'État a prononcé jeudi soir, à la veille de la célébration de l'indépendance, son discours annuel à la nation, retransmis à la radio-télévision nationale. Ce 65e anniversaire de l'indépendance coïncide avec le premier anniversaire au pouvoir du président, entré en fonction le 2 avril 2024. 18 mois après les coups d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum, le Niger cherche à affirmer sa souveraineté après la rupture avec ses partenaires traditionnels occidentaux et régionaux. Niamey a récemment annoncé son retrait officiel de certaines organisations internationales. Dans un contexte donc de réorganisation sécuritaire au Sahel, les autorités nigériennes souhaitent désormais redéployer les troupes sur d'autres objectifs. Pour Issoufou Yaya, historien et enseignant de sciences politiques à l'université de Niamey, la création par exemple de la force unifiée de 5000 hommes dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel AES est une nouvelle orientation géopolitique et militaire qu'entame le Niger.
L'insécurité a pris pied de manière profonde dans le pays. Et les différentes zones du pays qui ont connu une gouvernance, quand même, il faut le reconnaître, lors des deux anciens présidents, une gouvernance sécuritaire assez médiocre. La conséquence est que le régime en place éprouve quelques difficultés à pouvoir juguler le phénomène. Cette persistance de l'insécurité, il faut toujours avoir à l'esprit que pendant une dizaine d'années, le Niger a sous-traité la gestion sécuritaire au profit des forces extérieures qui ont brillé par une absence totale de résultats.
Le 21 mars dernier, 44 civils ont été tués lors d'une attaque djihadiste. Le ministre de l'Intérieur a très vite pointé du doigt le groupe État islamique au Grand Sahara. On note aussi une intensification des activités du JNIM et même de Boko Haram dans la zone du bassin du lac Tchad. La situation sécuritaire dans le pays se dégrade-t-elle finalement au fil des jours?
Pour appréhender de manière technique ce réveil de l'atrocité, il faut avoir une grille de lecture de l'acte terroriste en prenant en considération les différentes cibles. Lorsque les cibles sont militaires, on estime que le groupe terroriste est suffisamment outillé, suffisamment contrôlé pour guider ses activités terroristes. Mais quand c'est la barbarie aveugle, c'est des attentats dans les marchés, une attaque contre des civils désarmés dans une mosquée, dans une posture de prière, la lecture qu'il faut avoir, c'est que ces groupes terroristes sont malmenés sur le terrain au point maintenant de chercher des civils désarmés, des civils sans défense. C'est une lâcheté qui est condamnable.
Le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, a annoncé en janvier dernier la création imminente d'une force militaire unifiée de 5000 hommes dans le cadre de l'AES. Peut-on affirmer aujourd'hui qu'il s'agit d'une nouvelle orientation géopolitique et militaire?
La mise en place d'une armée commune, ça fait partie de la première volonté de matérialiser cette alliance des États du Sahel. En quelques mois, il n'est pas commode de mesurer véritablement le pas qui a été fait. Il y a des progrès et des victoires qui sont remportées. Mais elles sont invisibles parce que peut-être que la plupart des pays occidentaux veulent voir plutôt le mal infligé par les terroristes que les victoires remportées par les différentes armées.
Vous venez de suivre Issoufou Yaya, historien et enseignant des sciences politiques à l'université de Niamey au Niger. Des propos recueillis par Augustine Asta. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine avec Christian Lossambé.
Débutons ce tour d'horizon par le continent asiatique en nous rendant en Corée du Sud où le président Yoon Suk-yeol vient d'être destitué. En décembre dernier, le chef d'État avait tenté d'instaurer la loi martiale dans son pays, une tentative qui avait échoué grâce à la mobilisation de l'opposition qui a voté sa destitution. La Cour constitutionnelle a confirmé vendredi ce vote suite à une très longue délibération. Suivons les précisions de notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti.
Quatre très longs mois qui ont tenu en haleine les Sud-Coréens. 111 jours exactement où les rassemblements pour ou contre sa destitution se tenaient quotidiennement. Les 8 juges de la Cour constitutionnelle ont voté à l'unanimité la destitution du président conservateur Yoon Suk-yeol, le reconnaissant coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Abus de pouvoir, déclaration illégale de la loi martiale ou encore mise en danger des citoyens, une longue liste de faits qui accablent le désormais ex-président. La destitution est avec effet immédiat, Yoon Suk-yeol a été déchu de tous ses privilèges présidentiels et doit quitter le bureau et la résidence d'État dans les 2 jours. Désormais, la Corée du Sud devra élire un nouveau président dans les 60 jours. Un scrutin prévu pour le début du mois de juin, donc dans lequel le leader de l'opposition, le libéral Lee Jae-myung, est donné grand favori. D'ici là, le président par intérim a déclaré tout mettre en œuvre pour protéger la stabilité et la sécurité du pays jusqu'à la passation de pouvoir. Célio Fioretti, Séoul, Radio Vatican.
Une semaine après le tremblement de terre en Birmanie, plus de 3000 personnes sont mortes. Des milliers d'autres se retrouvent sans abri dans ce pays dévoré par la guerre civile. Mercredi, le régime militaire au pouvoir déclarait de manière unilatérale un cessez-le-feu contre les différents groupes armés afin de faciliter la reconstruction. Vendredi, Min Aung Hlaing s'est rendu à Bangkok pour un sommet régional sur la coopération économique alors que des manifestants se sont réunis pour dénoncer les crimes de guerre du régime au pouvoir. Malheureusement, l'armée birmane poursuit ses attaques dans les zones frappées par un puissant séisme malgré l'instauration d'un cessez-le-feu temporaire, a accusé vendredi le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Aux États-Unis, Donald Trump a lancé mercredi une brutale charge commerciale en annonçant des droits de douane très lourds, en particulier contre l'Asie et l'Union européenne, au risque d'étrangler l'économie mondiale. Le président américain, enterrant le principe du libre-échange que les États-Unis ont poussé pendant des décennies, a vanté une déclaration d'indépendance économique. Pendant une cérémonie à la Maison-Blanche, il a promis à nouveau un âge d'or à l'Amérique. En Hongrie, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été reçu avec tous les honneurs par son homologue Viktor Orban. Arrivé en pleine nuit, le dirigeant israélien a entamé jeudi sa visite, la première en Europe depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, par une cérémonie avec les honneurs militaires, bravant le mandat d'arrêt de la CPI dont la Hongrie a annoncé se retirer. La CPI, pour sa part, regrette ce départ, estimant que tout retrait nuisait à la quête commune de justice. À Budapest, Daniel Pseni.
Avant leur rencontre, le porte-parole du gouvernement hongrois a annoncé officiellement que son pays se retirait de la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, qui en novembre 2024 a émis un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien pour des soupçons de crimes de guerre dans la bande de Gaza. Viktor Orban s'était prononcé contre cette décision et avait défié la CPI en déclarant que Benjamin Netanyahou pouvait se rendre en Hongrie en toute sécurité. Lors d'une courte conférence de presse tenue en milieu d'après-midi, Viktor Orban a expliqué qu'il avait décidé de quitter la CPI car celle-ci s'est transformée en un tribunal politique. Dans sa réponse, Benjamin Netanyahou a remercié Viktor Orban pour son courage à s'opposer à la CPI qui, selon lui, est une organisation corrompue et une pourriture qui menace pratiquement la démocratie. Les entretiens entre les deux premiers ministres doivent se poursuivre tout au long de ces prochains jours avec au menu l'avenir de la bande de Gaza, la coopération militaro-industrielle et économique entre les deux pays. Daniel Pseni à Budapest pour Radio Vatican.
Et refermons cette page avec la France où l'inéligibilité de la figure d'extrême droite Marine Le Pen, qui pourrait empêcher sa participation à la présidentielle de 2027, provoque de nombreux remous dans le monde judiciaire et politique français, scruté de très près à l'international. La justice française qui l'a condamné lundi à 5 ans d'inéligibilité et 4 ans de prison dans 2 fermes aménagées sous bracelet pour détournement de fonds publics au Parlement européen, a envisagé mardi un procès en appel rapide, ce qui pourrait encore laisser à Mme Le Pen une possibilité de se présenter à la prochaine présidentielle.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.